Ils sont auteurs et autrices de livres jeunesse, confinés comme tout le monde, comme vous, comme moi, et ils ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire. De l'aventure, du policier, de la tendresse et de l'amour. Albin Michel Jeunesse ouvre, en partenariat avec RTL, pour vous les enfants, sa grande bibliothèque. Je suis Laurent Marsic, chroniqueur jeunesse dans Laissez-vous tenter, et dans cet épisode, je vous propose d'écouter une histoire policière au pays des fourmis, La reine des fourmis a disparu. Lue par son auteur, Fred Bernard, récompensé par de multiples prix. Lecture pour les 8-10 ans, en librairie. Ce livre est illustré par François Roquin. Seconde partie.
Le soleil rose se lève, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau en tissu qui lui couvre le corps. Un Indien blanc comme je n'en ai jamais vu. Il bâille, se gratte la tête et donne un coup de pied aux fesses du chien. Le chien grogne, se gratte et nous voilà par terre devant sa grosse truffe humide. Je l'interroge aussitôt au sujet de l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors dans un charabia incompréhensible. Tous les mots y sont mélangés, mal articulés, les verbes sont à l'infinitif, oh là là! J'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Ellie comment un animal domestique, relâché dans la nature, est incapable de communiquer avec les autres animaux. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute première importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. Le chien semble sincère, pour lui pas de doute possible, notre poil appartient à un Indien blanc, comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pied aux fesses tous les matins. Reste à trouver le bon. Nous y voilà, l'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Il y est fier de m'apprendre que les Indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Mais où va-t-il chercher tout ça? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages, ils sont terrorisés ou résignés et nous écoutent parler sans dire un mot. Soudain, l'oiseau de fer se met à trembler et à avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau, car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassuré non plus, inquiet certes, mais émerveillé ô combien. La forêt est magnifique vue d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille comme sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon. Et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces si je me réfère à tous les animaux prisonniers de son ventre. Tous se sont tus maintenant. Reste le vrombissement de l'oiseau, car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les animaux captifs. Où les emmène-t-on? Et pourquoi? Notre reine est-elle encore en vie? Sommes-nous au moins sûrs de la trouver, là où nous allons? Ellie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers, mais nul ne peut répondre à ses questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable, il est très bien ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer perd de l'altitude, nous approchons vraisemblablement du but. L'oiseau s'est posé en douceur. Des Indiens blancs, recouverts d'une seconde peau orange, ouvrent son ventre de métal. Vite, nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien, mais nous sentons qu'on nous transporte ainsi que tous les autres animaux qui s'agitent autour de nous. Nouveau vrombissement, nouvel arrêt, déchargement et terminus, tout le monde descend. Nous jetons un œil dehors, tout est gris, pas un arbre, pas une feuille, partout d'immenses fourmilières carrées. Les Indiens blancs vivent comme les fourmis, mais dans une jungle de béton. Rien à voir avec nos Indiens de la forêt. À ce stade de l'expédition, je me dis, mandibule de savon, te voilà en pleine science-fiction. Fini les entrelacs de lianes, tu n'es plus chez toi, il va falloir faire preuve de jugeote et d'intuition pour retrouver ta chère reine ici. Et hop, en route pour visiter ce dédale mystérieux. Nous avons à peine quitté le lieu où les caisses sont entreposées que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. Dégoûtant mais sympathique, il nous indique illico la salle où se trouvent tous les animaux exotiques. On dirait que la roue a tourné. Et si la chance souriait enfin ? Nous passons devant un gardien qui n'a pas l'air commode. Il veille devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et quelques petites pièces sombres s'ouvrent sur une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. Par le poil mystérieux, que vois-je ? Des dizaines d'animaux de toutes sortes sont là, alignés bien sagement. L'interrogatoire va être long. Le poil appartient peut-être à l'un d'entre eux. Pour gagner du temps, mon assistant et moi posons nos questions chacun de notre côté. Mais pas plus que le lion, que l'éléphant, la gazelle ou que la hyène, le crocodile, que le tatou, nul ne daigne répondre. Auraient-ils perdu leur langue ? « La langue et tout le reste !» répond une petite voix derrière moi. Une souris grise m'affirme que tous ces animaux sont morts depuis longtemps. Il ne reste plus que leur peau et leurs poils. Leurs yeux sont en verre et leur corps est rempli de paille. Elle en a d'ailleurs profité pour faire son nid, tout là-haut, dans la tête de la girafe, pour échapper aux attaques du chat qui hante les lieux. « C'est que moi, je ne peux pas m'enfuir en volant comme Coco, le toucan !» dit-elle. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où sont posés à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ses grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue de la souris. Accablé par le spectacle de tous ces animaux empaillés, je rejoins Ellie. Il est en train de s'énerver après un petit singe muet qui regarde dans le vide. « Allez, viens, inutile d'insister. On a dû réserver à notre regrettée reine le même sort qu'à tous ces papillons épinglés sur le mur. » C'est en cherchant la sortie, la tête basse, que mon assistant trouve un nouveau poil identique au nôtre. Puis, sur le dallage d'un couloir, un deuxième poil, puis un troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est assis là. Il a des poils plein le menton, les mêmes que le nôtre. C'est lui, le kidnappeur de notre reine. Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônant dans une cage de verre, notre reine vivante, notre reine est vivante. L'homme au menton poilu l'examine avec intérêt sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine. Mais sait-il qu'elle est mille fois plus précieuse pour nous que pour lui, car nous sommes des milliers à espérer son retour. Mais attention, prudence, il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Ellie et moi, nous regardons, il m'a compris. Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer à visage découvert. Enfin, la voie est libre. La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bonds dans sa prison de verre. Elle nous prie de l'aider de sortir de là. La force des fourmis rouges n'est pas une légende. Et bientôt, nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. La reine est enfin libérée. Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs le long des vitrines, des animaux empaillés et des squelettes. La reine est aux anges, elle ne tarit pas d'éloges et nous promet de belles récompenses. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là et je n'ose pas lui demander. Mais l'heure n'est pas aux réjouissances. Nous sommes loin de chez nous et il est trop tôt pour crier victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence, impressionnés par le nombre de bêtes enlevées à la forêt. Coco, coco, coco ! Un toucan avec son bec énorme et coloré vole vers nous. C'est sûrement Coco le toucan. Notre reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années. Et les hommes l'ont rendu fou, il ne sait plus dire que son nom, Coco. Coco, Coco, il va nous faire repérer s'il ne se déptait pas tout de suite. Il abandonne le dos du rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe de près, intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et s'approche de Coco, un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte. Il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir ? Ellie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco. Qu'il est notre seule chance de revoir la forêt. Mais oui, évidemment, il a sûrement raison. Je lui tape dans le dos, puis j'aide notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. L'homme est tout prêt et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux. Mais il a du mal à nous apercevoir, car il réajuste ses lunettes sur son nez et écarquille les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche son fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaie d'attraper son toucan. L'oiseau, apeuré, s'envole vers le plafond où pendent d'immenses squelettes de baleines. L'Indien barbu nous poursuit à travers toute la salle, bientôt rejoint par le gardien, pas commode, de l'entrée, qui a entendu le raffut. Coco panique, vole dans tous les sens entre les cornes et les oreilles des animaux pétrifiés, indifférents au tapage. Il finit par se cogner à une fenêtre, il s'égosille « Coco, Coco, Coco » et échappe de justesse aux grandes mains du gardien dans une envolée de plumes noires. Il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et vlan, brise la vitre de son gros bec. Il se retrouve dehors et noue avec. Sous l'effet de la peur, le toucan retrouve toujours son instinct d'oiseau libre, nous explique Ellie. Celui-là, il m'épate. Maintenant, Coco vole au-dessus des toits. Et le vieil homme crie le nom de sa mascotte, les bras levés vers le ciel. Il n'est déjà plus qu'un tout petit point. Nous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sous le couvercle des nuages, file au-dessus de la ville. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs. Mais il ne crie plus, on dirait qu'il vient de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole droit vers la forêt, d'instinct. Notre reine rayonne de bonheur et me félicite. Elle se croyait perdue. Je renvoie à juste titre les honneurs à mon assistant et au toucan. Sans la grande idée de dernière minute d'Elie et sans l'instinct de Coco, nous serions encore prisonniers du musée. Ce ne sera d'ailleurs plus un assistant qui accompagnera désormais Mandibule dans ses enquêtes, mais un associé de valeur. Mon associé, très ému par mes paroles, laisse alors échapper le fameux poil devenu inutile. De tout le voyage, il ne l'avait pas lâché, veillant sur le seul indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste. Nous le regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le bleu du ciel. Faisant confiance à Coco, heureux d'avoir retrouvé sa liberté, nous nous installons confortablement au milieu de ses plumes. Cette enquête menée tambour battant nous a complètement épuisés. Alors que nous allions nous assoupir, notre reine nous secoue et nous fait signe de regarder vers le bas. Notre forêt est là, magnifique.
Ainsi s'achève La Reine des Fourmis, lu par Fred Bernard, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur rtl.fr et vos plateformes favorites.